Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue au forum quotidien que vous suivez à travers nos médias partenaires au Niger. Femmes minces ou en surpoids, comment lutter contre les obsessions perçues? C'est l'intitulé de notre émission aujourd'hui. On le sait déjà, la grossophobie est une discrimination qui touche encore plus les femmes que les hommes. Cela touche plus les femmes lorsque l'on parle de corpulence moins forte pour des raisons liées aux normes esthétiques et corporelles bien plus contraignantes pour ces dernières. On peut voir l'effet de ces différences de genre en matière de discrimination dans le taux de personnes qui font des opérations pour perdre du poids. Plus de 80% sont des femmes alors qu'elles ne sont pas plus obèses en moyenne que les hommes. Avec l'avènement de la tendance skinny et apuchou, les choses ne s'améliorent pas plus. Alors, quand parle-t-on de femmes minces ou en surpoids? Question de poids, de taille ou de silhouette, est-ce qu'il existe vraiment des critères standards de beauté? Comment amener les femmes à s'accepter telles qu'elles sont? Et la prise de médicaments, quelles conséquences psychologiques et sociales ça peut avoir sur ces femmes? À ces questions, nous allons tenter de répondre en compagnie d'un sociologue, M. Alou Aye, d'un psychologue clinicien, M. Hussein Adamou, et en ligne, nous avons Samimi Fashion, elle est styliste et confectionneuse d'accessoires féminins. Je suis Rafika Taher à la présentation. Bonsoir à tous. Samira, on va tout d'abord commencer avec vous.
Ok.
Vous êtes styliste et confectionneuse d'accessoires féminins. Vous côtoyez donc les femmes dans toutes leurs formes et tailles. Alors la question de poids, de taille ou de silhouette, est-ce qu'il existe vraiment des critères standards de beauté?
Je me dis que non. Il n'y a pas de critères standards de beauté. Mais dans la mode, pour être éligible pour un concours ou bien pour un défilé, très souvent, il faut quelqu'un de très svelte. Il faut être un mannequin svelte. Surtout à cause des vêtements, parce que les stylistes créent les vêtements à partir des mesures standards d'abord. Et après, s'ils ont directement les mesures des mannequins, ils font aussi avec ça.
D'accord.
Mais dans la vie normale, pour moi, je me dis que non.
Donc, vous qui évoluez dans la mode, quels sont ces standards de beauté que vous choisissez pour les femmes, par exemple, pour les défilés ou autres?
Oui, c'est pas normal d'abord de vous qu'il y ait ces standards, mais c'est une mode qui est là avant moi. Donc, je ne sais pas si je pourrais changer ça directement, mais c'est possible aussi de le changer parce qu'on a beaucoup de promoteurs d'événements qui, aujourd'hui, au lieu de faire des défilés que pour les personnes svelte, ils le font également pour les personnes un peu en surpoids. Et ça permet de voir qu'il y a plusieurs différents vêtements qui sont appropriés à différentes personnes. Et dans la mode, c'est plus le poids. Il ne faut pas être un surplus de 70 à 80. 80, c'est déjà trop. Très souvent, sur certains podiums, quand on est sur ce poids, ils ne sont pas, les mannequins sont recalés.
Personnellement, vous, quels critères est-ce que vous utilisez? À quel genre de femme est-ce que vous faites appel?
Pour ma part, non, parce que je ne fais pas appel à un caractère spécifique de femme, mais non, tout le monde est la bienvenue, parce que ce qui peut être beau sur X ne peut pas être beau sur Y.
D'accord, Samira, restez à l'écoute, on va revenir vers vous. Monsieur Aye, vous êtes sociologue, quel est le poids de la société dans ce phénomène? Est-ce que la société en est la cause qui pousserait certaines femmes à vouloir grossir ou maigrir?
Merci bien. Et en fait, je dirais que effectivement la société a un poids, a un regard, parce que il faudrait peut-être partir sur qui est d'abord l'être humain. Pour voir la dimension sociale de l'individu. L'homme n'est que la résultante, en tout cas, de la conception, de l'appréhension du bien vouloir de la communauté qui l'entoure. Et cette communauté a, qu'on soit conscient ou non, une certaine influence sur nous qui finissent par nous définir, par faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, la société, évidemment, dans ce cas de figure également, a un poids énorme ou a, si vous voulez, une considération énorme dans ce que nous sommes en train de faire. Le choix, même si parfois on le dit, et qu'on est libre de choisir soit d'être gros ou de rester mince, mais quelque part, au-delà de ce choix individuel, il y a toujours le regard et le poids de la société qui agit sur comment nous sommes en train de fonctionner. Mm-hmm. Donc c'est pourquoi je dis bien que cette communauté-là ou cette société a un droit de regard et elle essaye de nous façonner en fonction de ce qu'elle pense être la personne ou le prototype idéal pour la société. Et je vais peut-être approfondir en disant que la femme, du point de vue social, elle est quoi d'abord ? C'est cet être qui doit essayer de créer les conditions pour maintenir un homme à ses côtés. Parce que, comme on le dit, la femme, c'est de la parure. Elle a été toujours considérée ainsi. Donc, comment créer les conditions pour que le regard des gens soit sur elle ? Ça, je pense que c'est la philosophie tacite, en tout cas, de toutes nos femmes dans notre société. Donc, cela amène, pour l'essentiel, en tout cas, la communauté, dans sa recherche du beau, de l'esthétique, à se dire que pour être une belle femme sous-entend que vous soyez claire, que vous ayez une longue chevelure, que vous soyez ronde, par exemple, que vous soyez propre et hygiénique. Ça, c'est des critères tacites de notre communauté. Et ainsi faisant, vous allez voir, toutes les femmes vont tout faire pour répondre à ces critères pour qu'elles puissent avoir l'agrément, la caution ou bien le bon regard de la communauté vis-à-vis d'elle. Mm-hmm. Et c'est cela qui fait que le plus souvent, vous allez retrouver ces femmes qui, après la quarantaine par exemple, vont tout faire pour grossir, pour qu'elles remplissent leur rondeur afin qu'elles soient mieux appréciées par la communauté, pour que les gens puissent dire que véritablement, ça c'est une femme. Une femme belle qui remplit ces critères-là.
Mm-hmm. Mais, donc, à vous écouter, c'est la femme en surpoids qui est la mieux appréciée de la société.
Merci.
Mais pourquoi ?
Oui, il y a deux paramètres. Il y a deux paramètres. Si nous allons juger du point de vue social, traditionnellement parlant, eh bien, la femme ronde, c'est elle qui est mieux appréciée par l'Africain, par l'homme africain. La femme ronde, la femme claire, la femme qui a de la chevelure et qui est propre et hygiénique.
Le physique.
Merci. Du point de vue appréciation, j'ai dit bien physique, puisque il y a l'aspect caractère qui est là. Mm-hmm. Mais du point de vue physique, pour que la femme soit appréciée, voici ces critères-là. Mais de nos jours, l'influence du monde occidental et la mondialisation a fait en sorte que on ne parle plus des femmes rondes, mais on cherche les femmes sphères, les femmes qui gardent le feeling comme elles le disent, donc qui maintiennent leur feeling. Et bien, dans la quête de ce critère-là, ou de la satisfaction de ce critère-là, vous allez voir, au-delà d'être clair, il faut être stylé, il faut avoir une taille moyenne, il faut avoir un look présentable. Et là, c'est à la mode. C'est au-delà des frontières de l'homme africain, mais c'est en Europe, c'est d'une manière mondiale. Et vous allez voir, aujourd'hui, beaucoup de nos femmes également se battent pour conserver leur poids, pour ne pas grossir. En dépit parfois de certaines circonstances sociales qui feront en sorte qu'elles vont prendre du poids, par exemple l'accouchement, mais elles feront tout pour garder leur feeling afin de répondre à ces critères de la société. Donc l'un dans l'autre, le regard de la société est toujours pesant dans ce que nous sommes.
Monsieur Hussein, vous avez écouté ce que Monsieur Alou Aye vient de nous dire. Qu'est-ce que vous pensez psychologiquement? Est-ce que ça n'a pas d'impact sur une seule femme de vouloir plaire toute seule à la société, de vouloir grossir pour plaire à la société? Quel impact psychologique est-ce que cela peut avoir sur elle?
Donc, la société, effectivement, joue un rôle très important dans la construction de notre personnalité. Parce que moi, je suis psychologue, je vais plus m'apesantir sur la question de personnalité. C'est la société, l'environnement qui propose à l'individu, d'accord, quel type d'individu nous avons. Donc, si la société se base sur un certain nombre de critères de beauté, de corpulence, donc à bas âge, la petite fille a déjà entendu les critères qu'il faut pour une belle fille. Donc, elle va commencer à imiter, comment on appelle, les filles qui sont dans son entourage, qui ont ce même comportement, qui ont été appréciées par les hommes qui sont dans la société. Et particulièrement, si vous regardez, je vais un peu différencier mon point de vue par rapport à ce qui vient de dire le sociologue, particulièrement au Niger, si vous prenez les sonrailles, c'est les sonrailles qui apprécient la femme qui a voilà une corpulence ronde comparativement au peul. Donc vous voyez, la culture aussi joue un rôle très important dans la construction de la personnalité d'une fille, qu'elle soit ronde ou qu'elle soit svelte. Effectivement, avec la mondialisation, avec l'influence de l'Occident, avec des activités comme Miss Niger et tout. Voilà. Donc, les gens ont tendance à copier aussi l'Occident pour dire que, bon, voilà, je vais être Miss de notre région, donc je vais essayer de conserver mon poids pour ne pas grossir.
Monsieur Hussein, mais le fait qu'on veuille que la femme soit forcément en surpoids pour plaire à la société, est-ce que ça n'a pas d'impact?
Ça n'a pas d'impact dans la mesure où c'est la société qui propose un type d'individu qu'elle veut. Si aujourd'hui la société nigérienne décide de dire que bon voilà, on a besoin des filles grosses, mais ça dépend de comment est-ce que la fille, par quelle manière, elle a passé pour devenir grosse aussi, c'est très important.
D'accord.
Si naturellement tu n'es pas grosse, tu as pris tout ce qu'il faut de la société. On ne peut pas forcer l'organisme avec des substances étrangères pour D'accord. devenir grosse, parce qu'il y a des répercussions après avoir transformé le corps aussi. Il y a l'image corporelle. Au début, tu es déjà svelte. Et bon, subitement, tu es devenue aussi une autre personne.
Samira?
Oui.
Est-ce que vous approuvez ce que Dr Alou et Dr Hussein viennent de nous dire? Est-ce que c'est normal que la femme accepte le poids de la société pour se transformer? La décision ne doit-elle pas venir d'elle-même?
Pas la société, plutôt pour soi-même et pour la santé. Comme le dit le médecin, c'est un peu souvent aussi par rapport aux cultures, comme il l'a dit. Chez nous, les peuls, on va trouver tout le temps qu'on est assez svelte. Et dans d'autres cultures, on a certaines qui sont plus grosses. Et comme le dit aussi le psychologue, c'est souvent pas normal pour certains qui prennent des médicaments pour grossir. Et après, c'est pour avoir des problèmes de santé quelques années plus tard, ou bien après l'accouchement. Ou bien, on a ses parents qui, quand l'enfant est très petit, on dit que non, il ne mange pas, mais en réalité, son corps ne s'est pas encore développé. Et on commence à lui donner des médicaments. Et l'enfant va commencer à grossir plus tard. C'est pas bon pour sa santé. Sur le du caractère, du côté de la mode, comme il le dit pour les Miss, et la mode sexuelle, c'est similaire autant pour moi. Des défilés et puis des défilés de mine sont similaires et généralement on a beaucoup qui vont vouloir m'écrire parce qu'il faut que je sois élue.
Les termes apuchu, skinny, c'est pour donner sa place à chaque femme à la base dans la société. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme une concurrence à qui est la plus belle. Vous qui êtes dans le monde de la mode, selon vous, la femme, elle doit être comment pour être belle physiquement? Les femmes qui sont en surpoids, elles disent qu'elles sont les plus belles. Les skinny disent que non, c'est moi la plus belle. Qu'est-ce que vous, en tant que femme, vous avez à leur dire?
Moi, j'ai plutôt à leur dire qu'il faut d'abord être bien dans sa peau. Je ne vais pas être skinny parce que la tendance est skinny. Je ne vais pas être apuchu parce que les apuchus se disent qu'elles sont plus belles. Il faut que je sois d'abord bien dans ma peau. Si je ne suis pas bien dans ma peau, moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise.
Nous allons maintenant écouter quelques témoignages d'hommes et de femmes qu'on a recueillis un peu partout dans la ville. On les écoute.
Mince, là, moi, je n'aime pas ça. Moi, je préfère les apuchu. Voilà.
Mon avis, il est basé sur les femmes arrobées parce qu'elles sont belles. Et tout ce que cette dernière porte, côté habillement, ça lui va très bien. Les femmes arrobées sont des femmes joviales. À résumer, je me dis que la femme arrobée reflète l'image de l'Afrique.
La beauté représente 20%, le savoir parler et agir à 50%, l'éducation, que ce soit l'éducation religieuse, que ce soit l'éducation en milieu scolaire, ça représente aussi les 30%. Donc, et le goût dépend du type d'homme, quoi. Il y a d'autres qui aiment des femmes rondes et d'autres aussi des femmes minces. Mais la qualité de la femme ne dépend pas de sa beauté seulement. C'est le savoir parler et le savoir agir face à son partenaire.
Eh bien, je dis tout simplement que la femme, qu'elle soit enrobée ou mince, ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est-à-dire, si on essaie de prendre la beauté pour définir la beauté comme une femme qui est enrobée, la personne est en erreur. Parce que cette même femme peut tomber malade et maigrir aussitôt comme un brin de balai. Et de l'autre côté, si c'est une femme mince, elle peut prendre du poids, surtout quand elle est enfante. Pour la personne qui a marié une femme pour sa corpulence, vraiment, la personne sera dessus.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de critère de beauté légiféré par X ou Y. L'essentiel pour la femme, moi, je pense que c'est d'être propre, clean, comme on dit, et s'assumer, qu'elle soit enrobée, mince, apoutue ou tout ce que tu veux. L'essentiel, en fait, c'est qu'elle s'assume, mais sans abuser. Chacun a son goût. La seule chose qu'il ne faut pas, ce n'est pas abuser dans le fait d'avoir de l'embonpoint. D'accord ? Quand tu es bien dans ton corps, sincèrement, franchement, le reste là, c'est fait divers. Tu peux être comment ? Il y a vraiment quelqu'un qui va t'aimer comme tu es. Et poli, c'est vraiment ça. Et puis souriante, c'est vraiment ça le critère de beauté, moi, pour moi, chez la femme. Et puis, sans oublier de faire le sport aussi, hein, parce que ça y va de votre santé.
Donc, moi, à mon avis, je trouve que la femme doit être enrobée pour être plus belle.
Il y a des avis différents. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Aye ?
Merci bien. Effectivement, les avis divergent d'une personne à une autre parce que tout simplement, dans le fond, la question de beauté, de l'esthétique, c'est comme le goût. Elle est relative. Chacun a son point de vue par rapport à ça. Mais comme je l'avais dit au préalable, il y a une évidence quand même. Une évidence, c'est que la société a tracé un certain nombre de critères et qui finissent par formater l'individu. Elle a ses critères en termes de beauté. Et tout de suite, mon collègue vient de dire que en fonction de culture, et bien également, on a également ce genre de critères ou des éléments d'appréciation par rapport à la beauté qui sont déterminés. Lorsque vous êtes dans une communauté peul, les critères ne se retrouvent pas ou ne sont pas les mêmes que dans une communauté germane, que dans une communauté haoussa, que dans une communauté arabe. Mais du point de vue global, national, on a également des critères, en tout cas, qui définissent la beauté du point de vue nigérien. Donc, c'est de la même manière que vous allez retrouver du point de vue africain, du point de vue noir africain, du point de vue européen, ainsi de suite. Donc, au-delà des spécificités particulières de chaque individu, de chaque groupe social, de chaque ethnie, il y a, dans le fond, le regard de la société qui est primordial, qui est déterminant, et sur lequel on ne peut pas échapper. Parce que l'être humain, il est appelé à vivre dans une communauté. Et on ne peut pas être à l'aise lorsqu'on n'est pas en harmonie avec les normes de la société. Ces normes de la société-là sont si près. Ils s'imposent à nous et on a obligation de les suivre. Mm-hmm. Refuser de les suivre, c'est être en porte-à-faux avec la société et se sentir mal à l'aise. Il faut vous demander pourquoi tant de femmes se dépigmentent, par exemple. Mais c'est parce qu'elles ont constaté que le regard de l'homme nigérien, que le regard de l'homme noir se porte beaucoup plus sur la femme qui est claire. Par conséquent, mais pourquoi ne pas être comme elle pour bénéficier de ces regards de l'homme ? Mmh. Eh bien, c'est la même manière. Lorsque vous êtes dans une communauté où on apprécie la femme qui est ronde, où on apprécie la femme qui est claire, eh bien, vous allez tourner tous les moyens pour que vous soyez dans cette fourchette-là. Parce que personne ne voudra être à la mode de la communauté. Eh bien, si vous êtes dans une société où on apprécie les femmes qui sont sveltes, qui sont minces, eh bien, vous allez tout faire pour maintenir ce critère-là afin de bénéficier du regard de la société. C'est malheureusement ou heureusement ça.
D'accord, là, vous avez parlé des hommes. Pourquoi pensez-vous qu'il faut seulement que la femme change son physique pour pouvoir être acceptée par les hommes ? Pourquoi est-ce que cette question ne concerne pas aussi les hommes dans la société ?
Mais évidemment, ça concerne les hommes, mais vous savez, le plus souvent, l'impact, il est beaucoup plus au niveau des femmes. Parce que nous sommes dans une société où l'homme, il a le monopole dans une société patriarcale, n'est-ce pas, où c'est l'homme qui décide, c'est les hommes qui décident pratiquement des règles de jeu. Eh bien, or, il y a une évidence qui est là. La femme, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, les femmes ont tendance à plus vouloir plaire aux hommes que le contraire. C'est cela un peu le règle de jeu. Les femmes, elles attendent que l'homme arrive. Donc c'est à elles de se faire coquette, apprécié par les hommes afin qu'ils viennent la prendre en mariage, par exemple. Alors que l'homme, lui, il va se débrouiller pour chercher la subsistance, être en mesure de subvenir aux besoins afin de prendre une femme. Donc, les critères, le cercle d'appréciation n'est plus le même. La femme, c'est comment faire pour appâter, pour amadouer, pour attirer le regard des hommes, parce que moi, je ne peux pas m'amener, mais c'est à lui de venir. Mais comment il va venir? Il faut que je réponde à un certain nombre de critères qu'il aime. L'homme, lui, par contre, il va chercher les moyens de subsistance lui permettant de prendre en charge la femme. Donc, d'accord, c'est là les deux équations qu'il faudrait.
Mm-hmm. Doctorant Ousseini, quelle lecture faites-vous de ces témoignages?
Merci beaucoup. En tout cas, j'ai écouté les témoignages et chacun donne son point de vue par rapport à la beauté, surtout la beauté d'une fille ou d'une femme. Vous savez, le fait d'apprécier une fille dépend aussi de l'individu, de sa personnalité, de l'histoire qu'il a vécue, de la relation qu'il a vécue avec sa mère. Du point de vue psychanalytique, c'est ce que Freud nous a enseigné, qu'on cherche toujours les caractères de la mère qu'on a refoulé à 4 ans, parce que l'enfant était un peu en conflit avec son père, parce qu'il voulait lui aussi prendre la mère. Bon, le père est là en tant que guerrier, c'est pas possible de prendre la mère, mais on apprécie quand même un certain nombre de comportements de la mère pour rejeter dans l'inconscient. Mmh. À l'âge adulte, ce conflit se réveille. On va chercher les filles, voilà, laquelle a le comportement de ma mère que j'ai refoulé dans l'inconscient. Que ça soit en termes de corpulence, que ça soit en termes de parole. Donc si déjà vous êtes dans un milieu où on apprécie plus la femme ronde, et puis voilà, vous avez eu la chance d'avoir une maman ronde, donc vous avez tendance à peut-être prendre ce caractère pour chercher les filles qui sont un peu rondes. Voilà un peu de point de vue psychanalytique. C'est pour dire que le critère de la beauté d'une fille dépend de l'histoire. Le critère physique dépend de l'histoire de l'individu. Donc, chaque culture a ses réalités, effectivement. Mmh. Mmh. Donc, en tout cas, c'est ce que moi je veux dire par rapport à la question de la beauté. Sinon, toutes les femmes, toutes les filles sont belles. Ça dépend de l'appréciation que moi je veux faire vis-à-vis de cette fille.
D'accord. Donc, Samira, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Que pensez-vous des témoignages que nous venons d'écouter?
C'est comme un parmi les intervenants qui a dit ça dépend de ce que l'on veut. Parce que lui, il y a un premier qui a dit qu'il préfère la Aputu. C'est son choix. C'est comme la beauté, moi je me dis.
D'accord. Il est aussi remarqué que les designers africains ont pris le cours en confectionnant des tailles XXL. Vous êtes dans le milieu.
C'est plus une clientèle sévère.
Selon vous, pourquoi les femmes en surpoids, elles ne se sentent pas à l'aise pour aller confectionner chez des stylistes comme vous? Est-ce que vous les encouragez aussi à venir vers vous?
Non.
Vous ne les encouragez pas?
Je n'ai pas eu à le faire, quand même. Mais j'ai compris qu'elles ont autant pour moi plus peur parce qu'elles se disent que les stylistes sont que ceux qui font les personnes assez minces. Et à chaque fois que c'est sur un événement, quand moi-même je fais un habit que je porte, on me dit toujours « Ah, mais c'est que pour vous ».
D'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites pour que ces femmes se disent qu'elles ont aussi le droit d'aller vers ces stylistes se faire confectionner des habits? Est-ce que vous avez un mot à leur dire que la mode, ce n'est pas réservé que pour les femmes minces? Ou bien vous pensez que c'est le contraire, c'est réservé qu'aux femmes minces, la mode?
Non, bien sûr que ce n'est pas réservé, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs créateurs qui font des événements où ils ont des collections spéciales XXL pour les personnes, pour les filles en chair. Je prends l'exemple de Hadeline qui a sur son événement à chaque année, elle a toujours une collection qui sort spéciale à Boutou pour permettre à ces personnes qui sont vraiment grosses de pouvoir se sentir à l'aise, pour se dire que c'est pas que les personnes se veulent qui sont pour le podium, elles sont aussi faites pour le podium.
Monsieur Aïe, dans les familles, par exemple, où les tailles, mesures des filles diffèrent, comment les éduquer pour que chacune d'elles se sente à l'aise? Parce que quand même, au sein d'une famille, il y a souvent ces genres de comparaisons. Donc, en tant que base, la manière d'accepter son corps doit venir de là. Donc, comment éduquer une fille pour qu'elle se sente à l'aise dans sa peau?
Merci bien. Et en fait, comme vous l'avez dit, tout part du fondement. Et le fondement, c'est le foyer, cette éducation de base. Il faut construire un individu fort. C'est comme, si vous voulez, une fondation. Lorsque vous êtes appelé à faire un immeuble à 3-4 niveaux, la fondation doit être assez solide. Eh bien, je pense que la grande responsabilité de nos parents, c'est de construire les enfants à la base avec du ciment fort. Parce que c'est cela qui va lui permettre demain de résister aux intempéries de la vie. Mais lorsque on construit d'une manière légère, comme si on ne prévoit pas les intempéries futures, eh bien, vous allez créer un individu fragile qui peut basculer d'un instant à un autre et qui sera à la merci de n'importe quel fléau qui va venir. Donc, dans ce sens-là, je pense bien que pour que nous puissions construire, amener nos sœurs à être fières de leur peau, c'est de discuter, causer avec elles et leur montrer qu'elles peuvent être aimées. Parce que les exemples sont là, plausibles, de par le monde, où des femmes rondes sont acceptées, tout comme des femmes minces sont acceptées dans la société. Donc c'est aux parents de construire et d'amener les enfants à avoir une certaine confiance en elles-mêmes. Lorsqu'on a confiance de soi-même, on est sûr de ce qu'on est, de nos capacités, de nos potentiels, on n'est pas complexé. Mais lorsqu'on laisse, d'abord, il n'y a pas une bonne communication, il n'y a pas une bonne assurance, et on incite, on stigmatise facilement la fille par rapport à sa taille, qu'elle soit grosse ou mince, eh bien, elle va développer un complexe lui permettant de ne pas s'affirmer demain. Et ensuite, il y a les médias. Les médias, d'une manière globale, ils font l'apologie des filles minces, des filles sveltes, comme on le dit. Vous allez le voir dans tous les films qui vont passer, rarement vous allez trouver l'actrice principale qui est grosse. Là, c'est des conceptions, le psychologue est là, qui rentre dans la psychologie pour préparer les individus à rejeter les femmes grosses. Alors que nous le savons très bien, une grande partie de notre communauté admet et accepte les grosses femmes. Et pourquoi ne pas préparer ces enfants-là à cette éventualité? Donc je pense bien que c'est un travail de fond de communication que les parents devront faire à la base, mais c'est également d'assurance. Il faut rassurer les filles. Que tu sois grosse ou mince, dis-toi que c'est quelque part la volonté d'Allah, la volonté de la créature. Eh bien, par rapport à ça, sois fière et sens-toi bien dans ta peau afin que tu puisses t'affirmer et te dire que tu as une place dans cette société en dépit de ton poids.
Docteur Ousseini, la même question pour vous.
Donc, j'ai toujours abondé dans le même sens que le sociologue, hein, parce que souvent, on a toujours un objet d'étude commun, même si nous étudions plus le comportement. Donc, parlons du rôle de la famille dans comment on appelle, la question de la corpulence. La famille, selon la théorie systémique, la théorie c'est un système. La famille c'est un système. Quand on dit un système est constitué et composé de plusieurs éléments. Chaque élément a un rôle à jouer. Lorsqu'un des éléments ne joue pas son rôle, la famille toute entière c'est là disloquée. Donc ici, la famille peut avoir des enfants, des filles, des fillettes grosses et des fillettes sveltes. Elle est grosse. Maintenant, c'est la famille, telle qu'il a dit, qui devrait communiquer avec cette fille pour qu'elle retrouve sa place dans ce système de famille. Si je suis grosse, la famille, elle apprécie la fille en fonction de sa corpulence. Lui expliquer qu'effectivement, elle a une valeur. La femme grosse, la famille n'a qu'à donner plusieurs exemples pour montrer à la fille effectivement que bien qu'elle soit grosse, quand même, elle a un rôle très important à jouer. Cela va permettre à cette fille de développer une estime de soi forte d'elle-même. Elle sera sûre d'elle-même. Elle peut se défendre devant quiconque, qu'elle soit devant une fille, qu'elle soit svelte ou pas. Elle sait qu'elle a une valeur. Donc, cela va permettre à ce qu'elle développe ce qu'on appelle une identité personnelle de son corps. Mais le contraire, si la famille stigmatise la fille parce qu'elle est grosse, l'autre elle est svelte, mais elle va développer ce qu'il appelait un complexe, effectivement, parce qu'elle va finalement dire que bon, je suis inutile, je n'ai pas ma place, parce qu'elle a perdu sa place dans le système, et même le système tout entier sera troublé. Parce que si un élément du système est, a perdu sa place, ce n'est pas la fille grosse qui constitue un problème, mais c'est toute la famille. Elle va juste porter les symptômes de la famille d'un système qui est disloqué. Donc, vous voyez, vraiment, en un mot, la famille a un rôle très important. La famille valorise les filles, qu'elles soient sveltes ou, rondes.
Il y a aussi des surnoms, comme, par exemple, qui commencent dès l'enfance, comme par exemple la girafe, la sauterelle, etc., les minces, ou bien boule-boule, la boule. Ouais. En fait, ça n'en finit pas. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur l'enfant plus
Effectivement,
tard?
Effectivement, lorsque une fille, on l'appelle boule-boule. Vous voyez ce que ça fait? Boule-boule, c'est vraiment une sorte de... On lui a donné un nom différent des autres. Boule-boule, ça veut dire quelque chose, voilà, qui ronde, qui est faite juste peut-être pour...
Oui.
Voilà, elle n'a pas vraiment une valeur. Donc, les termes utilisés pour appeler les enfants aussi vont donner à l'enfant une idée de ce qui il est et qu'est-ce qu'il va devenir finalement. Donc c'est vraiment, moi je vois que c'est pas bon de qualifier d'un enfant, bien que le boule-boule, mais boule-boule c'est pas bon. Il faut chercher un nom pour vraiment valoriser
donc,
l'enfant.
Donc l'impact psychologique que ça peut avoir plus tard sur
c'est
l'enfant.
C'est un trouble d'identité corporelle. Trouble d'identité corporelle, donc voilà, boule-boule, je ne serai rien. Déjà boule-boule, je ne peux pas être un athlète, hein. Dans sa tête, quand on me dit boule-boule, donc...
Ça va constituer un frein pour cet enfant.
Un frein, effectivement, pour le développement d'estime de soi, ce qui donne lieu à ce qu'il appelle complexe.
Samira?
Oui, allô?
On parlait des surnoms comme la girafe, la sauterelle, boule-boule, la boule qu'on donne aux enfants. Vous, en tant que femme, est-ce que vous accepteriez qu'on appelle votre enfant la girafe, sauterelle ou boule-boule? Qu'est-ce que vous faites pour que ça n'impacte pas trop l'enfant en tant que femme?
Si l'enfant est en âge...
Est-ce que vous accepteriez que qu'une personne appelle votre enfant comme ça?
Non.
D'accord.
Je n'accepterai pas et j'aurai un dialogue avec cette personne qui donne un nom à cet enfant. Parce que l'enfant n'aura plus confiance en lui à un moment donné ou bien il rentrera en train de pleurnicher, se disant « mais on m'appelle ci, on m'appelle ça, il faut que je devienne ci, il faut que je devienne ça », alors que non, tu n'as pas besoin de ça. Son corps se développe au moment où il le voudra. Il ne faut pas qu'on accélère les choses.
Et l'enfant lui-même, qu'est-ce que vous allez dire à l'enfant?
Il est en âge de comprendre ce qu'on lui dit. Je dois lui dire, je vais lui expliquer calmement tout cela, que le corps il prendra du temps, donc tu n'as pas besoin de ci ou ça pour être ce que les gens veulent.
Allô?
Oui, allô?
Oui, vous disiez?
Je disais que j'aurais plus à discuter à l'enfant s'il est en âge de comprendre tout ce processus, qu'il n'a pas besoin des critiques des gens, le corps se développe au moment où il le faudra.
D'accord.
Donc, il n'a pas besoin de l'avis de X ou de Y pour dire je veux ci ou je veux ça.
Monsieur Aye, socialement, qu'est-ce que vous pensez de ces surnoms qu'on donne aux enfants?
Merci bien. Ça, c'est de la stigmatisation, ce qu'on appelle de la stigmatisation dans la société, et c'est très péjoratif. Le plus souvent, c'est péjoratif et ça crée le complexe. Ça bloque l'enfant dans son évolution, dans sa fierté vis-à-vis de lui-même, mais également, et c'est là, malheureusement, le rôle qu'il peut apporter dans la société. Parce qu'à chaque instant que l'enfant va se rappeler qu'il est inutile, qu'il n'est pas apprécié, eh bien, il sera complexé. Il va vouloir s'isoler, se retrancher sur lui-même, et c'est ça qui crée les dépressions parfois, parce qu'il ne peut plus apporter une valeur ajoutée à la société. Alors c'est pourquoi il est toujours bon d'apprécier positivement nos enfants, quel que soit par ailleurs leur taille, quel que soit par ailleurs leur niveau d'intelligence, parce que les gens oublient que, je fais une petite parenthèse pour interpeller au-delà véritablement de l'aspect beauté, pour dire même au niveau de l'intelligence. Il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs champs d'intelligence. Vous amenez tous vos enfants à l'école et vous attendez que tout soit permis. Ce n'est pas possible. Celui qui ne sera pas primé, on va le stigmatiser, on va l'inciter. Demain, il sera bloqué. Et il va finir par ne plus prendre goût. Il va se sentir inutile. Mm-hmm. C'est de la même manière. Lorsque la jeune fille est grosse, il faut l'apprécier dans sa rondeur. Lorsqu'elle est mince, il faut l'apprécier dans sa rondeur.
Elle donnera plus tard une femme assez sûre d'elle qui a Merci. Confiance en elle. On achemine pas à pas vers la fin de ce débat. Que faire pour que les choses évoluent et pour que les femmes s'acceptent enfin dans leur corps? Samira.
Une sensibilisation dans chaque domaine, pas de la mode, comme chez les psychologues, déjà le médecin il fait sa part. Le coach à la salle de sport également doit faire sa part. Je dirais dans tous les domaines. Pas que c'est toi, mais dans tous les domaines, peu importe. Et que les gens arrêtent de donner des petits noms qui font mal à certains enfants, parce que c'est comme l'a dit mon précédent, ça fera mal et puis l'enfant n'aura plus confiance en lui-même.
D'accord. Finalement, pour vous, c'est qui la belle femme?
Pour moi, c'est celle qui est bien dans sa peau.
C'est la femme qui est bien dans sa peau.
Oui.
D'accord. Merci,
Samira. Aujourd'hui, je décide de faire un régime. C'est parce que je me sens bien dans ma peau. J'ai besoin de ça. Si D'accord. je ne le fais pas aussi, c'est parce que je suis bien dans ma peau.
Doctorant Ousseini, comment arriver à surmonter son complexe pour que les femmes s'acceptent telles qu'elles sont?
Ok. En tout cas, pour que les femmes s'acceptent telles qu'elles sont, moi, je crois que c'est un travail de base que la famille devrait faire de l'enfance. Valoriser l'enfant pour que l'enfant développe une idée de qui il est, avoir une personnalité, avoir une représentation positive de son corps. Si la famille valorise l'enfant et l'enfant grandit avec l'image de, bon, même si j'ai quand même un poids, je suis valorisé, je suis intelligent, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais malheureusement, on a constaté que la famille valorise plus les enfants qui ne sont pas gros. Et souvent, on a même tendance à faciliter le transport de ces enfants et on laisse l'autre parce qu'il a un poids. Donc, il se voit déjà inutile. Et la fille, à un âge donné, elle veut être svelte elle aussi, ce qui conduit à la consommation des produits pour réduire le corps. Mmh. Est-ce que vous voyez? Et cela peut avoir des conséquences graves sur sa représentation de l'image corporelle. Elle a perdu l'image de qui elle était, donc elle est devenue une autre personne qui probablement ne va pas durer aussi.
Donc c'est dès l'enfance inculquer à la femme que peu importe son physique, s'accepter telle qu'elle est.
Oui, justement.
La même question pour vous, Monsieur Ayé.
C'était quoi la question?
Comment arriver à surmonter son complexe pour que les femmes s'acceptent telles qu'elles sont?
Oui, merci bien. C'est vraiment l'estime de soi. Il faut savoir le cultiver. Et cultiver vraiment l'estime de soi. Et c'est dire que tout être humain a un rôle déterminant à jouer dans la société. La société, c'est une chaîne où tous, on doit avoir une place. Mais, comme nous l'avons dit au début, il faudrait qu'à la base, on renforce, on construise des personnes solides. Parce que tant que dans la construction de la base, l'élément, l'enfant n'est pas assez solide, eh bien, il sera complexé. Mais lorsque vous allez construire un enfant solide, et comment construire cet enfant solide-là, c'est en appréciant positivement ce qu'il est. Positivement ce qu'il est. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait systématiquement apprécier tout, il faut savoir l'orienter également. Lorsque, même si vous êtes en surpoids, et qu'il y a une nécessité de réduire ce poids-là, il faudrait savoir communiquer pour que l'enfant puisse réduire son poids sans qu'il constate que c'est un préjudice, que c'est parce que c'est négatif, c'est totalement négatif. Donc, il faut l'amener ainsi. Si elle est trop mince, comment faire pour qu'elle puisse comprendre? Demain, peut-être il faudrait prendre un peu plus de poids, l'amener à manger plus, sans pour autant qu'on développe en son esprit ce complexe-là. C'est parce que elle ne doit pas être mince. Mm-hmm. Donc, moi, je pense que c'est la responsabilité d'abord, c'est au niveau des parents, qui doivent mieux communiquer, mieux échanger avec les enfants. Et ensuite, la société, d'une manière globale, va prendre le relais afin que nous puissions avoir chaque individu, qu'il soit gros ou mince, sûr de lui-même. Et c'est ainsi seulement qu'il peut apporter une plus-value de la société.
Mmh. Samira ?
Oui.
Allô ?
Oui, je suis là.
Oui, de la mode, est-ce que vous sensibilisez les femmes pour qu'elles s'acceptent physiquement ? Si oui, comment est-ce que vous vous y prenez ? Que faites-vous ?
Comment par ayant vraiment arrêté un peu les grands podiums, du coup, je ne suis vraiment pas vraiment en contact ces dernières années avec les clients via vêtements, plus avec les chaussures. Et je me dis que mes collègues le font via les défilés, et comme l'exemple que je vous ai donné, le défilé que Adidas a fait, c'est pour permettre et dire aux femmes qu'elles ont toute leur place.
Donc,
également au mari, donc le font.
Et quel est votre dernier mot par rapport à ce sujet? Qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes?
Je dirais plus aux femmes de s'accepter. Mm-hmm. Quand on est bien dans sa peau, comme je réplique encore, si tu es mince et que tu es bien dans ta peau, reste belle. Si tu es grosse et que tu es bien dans ta peau, autant pour moi, reste belle. On n'a pas besoin de préjuger des gens pour se dire il faut que je sois grosse, il faut que je sois mince. C'est tout ce que je dirais.
D'accord. Et pour plaire la femme, qu'est-ce qui est le plus important pour que la femme puisse plaire?
Qu'elle puisse plaire, ce n'est pas le corps. Le fort intérieur est encore mieux que la beauté extérieure.
D'accord. Merci Samira. Doctorat Ousseini, quel est votre dernier mot? Quel appel est-ce que vous lancez pour que ces femmes-là puissent s'accepter psychologiquement? Quel est votre dernier mot?
Mais psychologiquement, qu'avez-vous
à leur dire?
Les femmes doivent comprendre que toutes les femmes sont belles. Il n'y a pas une femme qui n'est pas belle. Que tu sois grosse ou mince, tu prends soin de toi-même, tu prends soin de ton corps et que tu adoptes un comportement positif dans la société. Ton mari viendra, il va même te chercher. C'est comme ça. Parce qu'ils font ça, elles font ça juste pour chercher un mari. Hein. Mm-hmm. En réalité, le mari là, il va venir.
D'accord.
Donc, ben voilà.
Monsieur Aye, quel est votre dernier mot?
Merci bien. Mon dernier mot, je dirais à toutes mes sœurs, de rester positive, de croire en elle-même et de ne jamais se laisser juger de par son apparence. C'est vrai, l'être humain, il est double. Il est l'être, il est apparent. Notre société a plus tendance à vouloir juger l'apparence, mais le plus important et le plus primordial, c'est l'être. Et donc, c'est cette confiance en soi.
D'accord. Merci beaucoup, chers invités, pour vos réponses. À la fin, selon nos invités, le plus gros travail doit être fait depuis le bas âge chez les enfants pour qu'ils puissent plus tard s'accepter. Ce que les femmes pensent être leur faiblesse peut être leur plus grande force. La beauté extérieure ne compte pas. Femme mince ou en forme, vous êtes toutes belles. L'essentiel, c'est que la femme se sente bien dans sa peau et c'est ce qui est important. Et ce qui est important, c'est la beauté intérieure. C'est un thème qui suscite vraiment beaucoup de débats, mais nous sommes malheureusement au terme de notre forum. Merci, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Samimi Fashion, avec le sociologue Alou Aye et le doctorant psychiatre clinicien, monsieur Ousseini Ademou. Je suis Rafika Taher à la présentation. À la technique, c'était Al-Mustapha Ayouba. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre thème du forum du studio Kalangou. Excellente soirée à tous.